Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La philosophie morale, théorie, pratique et expérience avec Ruven Augien. À quoi sert la philosophie morale ? Bien sûr, à définir les principaux concepts de la morale, le bien, le juste, la vertu. À répondre aussi, peut-être, à quelques questions difficiles. Par exemple, les jugements moraux sont-ils vrais ou faux ? Et s'ils sont vrais, comment les justifie-t-on ? Mais la philosophie morale sert aussi à mieux nous faire comprendre comment nos intuitions morales ou nos opinions se sont formées et à nous guider dans des questions difficiles, du moins le prétend-elle. Faut-il toujours, en toutes circonstances, tenir sa promesse ? Voilà une de ces questions. Est-il parfois moralement juste de mentir ? Doit-on, dans certains cas, sacrifier un innocent pour sauver un plus grand nombre de vies humaines ? Bref, que penser des mères porteuses de l'avortement ? Enfin, toutes ces questions que les auditeurs de questions d'éthique ont eu l'occasion d'entendre débattre dans le cadre de ces émissions. Alors aujourd'hui, fin de l'année oblige. Une émission bilan sur la philosophie morale et un aspect assez méconnu qu'elle recèle, c'est-à-dire sa capacité à être l'objet d'expériences morales. Ruven Augien est notre invité. Ruven Augien est un habitué de questions d'éthique, un fidèle, un ami. Il est directeur de recherche au CNRS et il a publié de nombreux ouvrages dont nous parlons régulièrement dans cette émission. Alors, j'entends dire, Ruven Augien, que vous ferez paraître bientôt un ouvrage intitulé « L'éthique, mode d'emploi, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». Donc, merci d'être avec nous pour cette émission. Vous parlez d'expérience de pensée et d'expérience en philosophie morale. Quel sens donnez-vous à ce terme d'expérience ? Parce qu'après tout, la philosophie morale suggère de toute autre considération que celle qui prendrait effet dans une situation d'expérience.
Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'était de donner une certaine idée des difficultés du jugement moral. Et il m'a semblé qu'utiliser cette méthode des expériences de pensée, qui est une méthode qui est aussi vieille que la philosophie et qui est utilisée dans d'autres domaines que la philosophie morale, qui consiste simplement à se placer dans une situation hypothétique et pour poser un problème, une difficulté, et essayer d'amener les gens à réfléchir sur ces difficultés. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer cette idée d'expérience de pensée. Imaginez un canot de sauvetage qui est pris dans une tempête en pleine mer. À son bord, il y a 4 hommes et 1 chien. Tous les 5 vont mourir si aucun homme n'accepte d'être sacrifié ou si le chien n'est pas jeté par-dessus bord. La question, est-il moralement permis de jeter le chien à la mer simplement parce que c'est un chien sans autre argument ? Vous voyez, là, on a eu un cas, si on le présentait simplement comme ça, l'expérience de pensée n'irait pas très loin. Mais nous ajoutons quelque chose. Par exemple, supposer que ces hommes soient des nazis en fuite, auteurs de massacres de masse barbares, et que le chien soit un de ces secouristes héroïques qui ont permis à des dizaines de personnes d'échapper à une mort atroce après un tremblement de terre. Et la question qui se pose, est-ce que ça changerait quelque chose à votre façon d'évaluer les droits respectifs à rester sur le canot de sauvetage ? C'est-à-dire, est-ce que le fait, par exemple, que les qualités individuelles de chacun des êtres qui est sur ce canot, qui doit compter, ou plutôt son appartenance à telle ou telle espèce ? Bon, c'est une façon imagée de poser cette difficulté. Et les deux, ce qui est intéressant dans cette idée d'expérience, et c'est pour ça qu'on peut employer ce mot, c'est cette démarche de présenter d'abord quelque chose, de nous donner l'impression que la réponse finalement est assez simple et de modifier certains éléments de l'expérience afin de montrer la difficulté et les présupposés que nous avions dans le premier jugement. Donc c'est l'ensemble qu'il faut considérer comme une véritable expérience de pensée.
Vous avez dit on rajoute des éléments qui précisent le contexte et qui complexifient la situation afin de remettre en cause le jugement initial. Alors reste toujours le cas, parfois ces éléments contribuent également à confirmer le jugement initial. Reprenons cet exemple. Il y a dans le canot de sauvetage quatre êtres humains et un chien. Alors, quand l'histoire est présentée de cette façon-là, l'évaluation morale spontanée est claire. Bien sûr, mettons le chien par-dessus bord si c'est la condition pour sauver les quatre êtres humains. On imaginerait assez mal qu'on décide de sacrifier l'un des êtres humains pour sauver le chien. Une fois que cela est acquis, ne faut-il pas demander pourquoi ?
Alors, on peut en effet se poser la question directement.
Alors,
peut...
qu'est-ce qu'on répond dans ce cas ? Pourquoi ? Parce que l'homme vaut plus que l'animal ? Quelque chose de ce genre.
On peut dire que parmi les critères de décision dans une situation morale complexe de ce genre, l'appartenance à l'espèce est un élément dont il faut tenir compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de spécisme dans le débat autour des animaux.
Est-ce simplement un constat d'appartenance à l'espèce ou est-ce l'attribution, au-delà de cette reconnaissance à l'espèce, de capacité morale ou de dignité, de valeur intrinsèque de la vie humaine par rapport à la vie animale ?
On peut en effet continuer à développer, essayer d'expliquer notre premier jugement. Mais en fait, ce qui est important, c'est que nous allons avoir une intuition. La première intuition, c'est celle qui consiste à dire qu'il faudrait privilégier probablement les êtres humains.
Non, mais justement, arrêtons-nous, si vous voulez bien, un instant sur cette intuition. Bon, admettons qu'on décide de privilégier l'être humain avec un argument fort tout de même et qui rend compte la plupart des jugements qui sont portés sur cette situation. Mais si on dit qu'il faut privilégier l'être humain, on sous-entend quel que soit l'être humain.
Oui, alors,
et on sous-entend quel que soit l'animal. Alors est-ce que l'exemple, que les spécifications que vous donnez après, et qui montrent en effet qu'il y a des cas qui sont un peu limites, est-ce que ça remet en cause ce jugement initial, quel que soit l'être humain et quoi qu'il ait fait ?
La première des choses, donc, c'est qu'il y a une différence entre ce que doit déclencher l'expérience de pensée, lorsqu'on la propose et qu'elle est efficace, c'est cette réaction intuitive, la première, celle qui nous intéresse. Cette réaction intuitive, elle ne porte pas avec elle ni son interprétation, ni sa justification. Vous avez évoqué plusieurs critères qui pourraient justifier ce sentiment qu'au fond, il faudrait d'abord sauver les humains. Il peut y avoir différents critères comme la dignité humaine, l'importance que nous accordons à l'être humain, sa valeur morale, etc. On peut trouver différents critères qui feront d'ailleurs l'objet d'un débat entre philosophes. Ce qui m'a intéressé, c'était cette intuition elle-même, la première, celle que nous avions, qu'on devrait donner la préférence aux humains par rapport à l'animal, qu'elle pouvait être, avant même toute justification, toute interprétation, qu'elle pouvait être contrebalancée par le deuxième exemple que j'ai donné.
Mais contrebalancée ou confortée ou
oui,
renforcée,
ça, bien sûr,
parce qu'on peut dire aussi... Oui. Quoi qu'il ait fait cet être humain, même s'il est très laid alors que le chien est très mignon, si c'est un criminel alors que le chien est un héros, il n'empêche que un homme vaut plus qu'un être humain et en conséquence, on sauvera l'homme quoi qu'il ait fait. Ça peut aussi servir à conforter, à confirmer,
ça
pas simplement remettre en cause.
Ça pourrait être le cas, évidemment. Mais je dirais qu'une expérience de pensée réussie, elle ne réussit pas toutes, c'est une expérience dans laquelle notre jugement initial a été ébranlé plutôt, je dirais, en gros, que conforté par la deuxième. Ce qui est intéressant, c'est de voir la difficulté du jugement et de s'apercevoir que ce qu'on appelle, par exemple, dans ce débat autour des animaux, la question de l'individualisme moral, c'est-à-dire que les qualités personnelles de chaque être sont celles dont il faut tenir compte dans notre jugement, compte plus que des qualités générales, comme elles peuvent être d'ailleurs l'appartenance à l'espèce, mais elles pourraient être aussi le fait que nous, de la dignité humaine qui est partagée par tous les êtres humains. Donc je pense que là, cette idée d'individualisme moral, c'est-à-dire que notre jugement moral doit être guidé par des qualités personnelles plutôt que par des considérations générales, je pense qu'on peut y arriver
en qualité comparant. Personnelle, d'accord, mais le fait d'être un homme n'est-il pas la première qualité personnelle ? Celle qui est dominante sur les autres.
Elle peut l'être, si vous voulez, évidemment dans ce livre, qui est un livre plutôt de présentation et d'introduction, je n'ai pas voulu trancher, comme vous l'avez vu. J'ai simplement essayé de montrer que cette notion de qualité personnelle, par exemple l'histoire des personnes dont nous nous demandions qui a plus de droits, puisque c'est dans ces termes que j'ai posé la question, pouvait être fixée aussi par les actions ce que ces êtres ont fait. Je ne dis pas que c'est déterminant, évidemment. On peut considérer, par exemple, que même s'il s'agit de personnes qui ont un passé aussi déplorable que des anciens nazis, ils ont peut-être droit à un procès, etc., alors que c'est absurde d'envisager ça pour un chien. Donc, il n'y a pas de solution. Simplement, je pense que j'aurais réussi si j'ai laissé entrevoir la difficulté et que le jugement n'est pas aussi simple qu'il peut nous apparaître à notre première réaction intuitive.
Ça, c'est la première vertu de l'expérience morale, compliquer les jugements. Mais dans certains cas aussi, permettre de mieux connaître les raisons pour lesquelles on adopte ces jugements, ce qui est toujours un acquis. Donc, après avoir immergé nos auditeurs dans ce cas particulier, enfin tout à fait invraisemblable, mais c'est toujours d'autant plus intéressant, peut-on essayer de spécifier, Ruvanogien, ce qu'il y a de... au fond, ce qu'il y a de propre à l'expérience morale est sa cible privilégiée, parce que ce qu'elle sert à mettre en difficulté, ce qu'elle elle est un élément de déstabilisation idéal pour ce qu'on appelle les intuitions morales, les jugements moraux spontanés, les valeurs morales communes, le consensus moral, le bon sens moral, bref, toutes ces choses que l'on évoque quand on ne sait pas très bien quoi dire et qui apparaissent comme une manière de clôture des discussions. On vous demande, mais pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est mal? On entend souvent répondre, oh ben ça c'est une intuition morale, c'est un objet du consensus moral. L'avantage de l'expérience de pensée, c'est que ça permet de mettre en question cela et de le déstabiliser. Alors, pourquoi?
L'objectif principal de ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que nous ne savons pas exactement quelles sont nos intuitions morales, qu'elles sont difficiles à déterminer. Au fond, on se focalise sur certaines intuitions, à cause de la tradition philosophique, des débats dans lesquels nous sommes engagés. Mais si on se demandait, mais c'est quoi l'intuition? Et d'ailleurs, un des avantages de ces expériences de pensée, du moins des récents développements autour de l'idée d'expérience de pensée, ça a été de se dire que c'est souvent les philosophes qui font valoir leurs propres intuitions sans s'interroger, sans se demander, mais les intuitions de qui? Et si on fait une enquête empirique, au fond, pour savoir si les intuitions sont partagées, eh bien, on s'aperçoit que c'est loin d'être le cas. Et la première des choses qu'il faut déterminer, c'est de savoir quelles sont ces intuitions. Dire, par exemple, que notre intuition nous dit que c'est l'intuition générale, ou la plupart des gens pensent que, ce sont des choses qui mériteraient d'être étudiées. Je pense que là, la question de savoir quelles sont ces intuitions, c'est-à-dire quelles sont ces réactions immédiates, non théorique, peu réfléchi à propos de dilemmes, de conflits comme celui que j'ai exposé tout à l'heure, c'est déjà un travail philosophique, savoir en quoi elles consistent, ces intuitions.
Prenons un autre exemple. Une maison est en feu. Dans cette maison, il y a un chat et un tableau de Rembrandt. Un seul des deux peut être sauvé. Lequel?
Oui, vous me posez la question. J'aurais refait, bon, j'aurais pu, ça dépend quel chat, bon, quel genre de rapport vous avez avec lui. Ce qui m'intéresserait, c'est simplement de me demander, bon, ma réponse sera, je sauverai plutôt le tableau éventuellement, mais peut-être que je le regretterai, comme diraient certains philosophes, comme en cas de conflit moral. La question ici est de savoir si cette intuition, ma réponse immédiate, sera partagée. C'est plutôt ça qui m'intéressait.
Mais comment supposons avoir l'assurance qu'une intuition est partagée? Parce qu'en effet, tout un chacun se propose volontiers en porte-parole de l'intuition générale. Il dit je pense que, et c'est d'ailleurs l'opinion commune. Mais a-t-on des moyens expérimentaux, scientifiques, de savoir ce qu'il en est des intuitions morales?
Là, nous avons deux positions qui dépendent de la définition que nous donnons des intuitions. Il y a une définition qui est une définition sociologique, je dirais, une définition qui, au fond, repose sur une méthode de sondage d'opinion, de demander aux gens, on les expose à ce genre d'expérience de pensée, comme celle que vous avez évoquée. Si on demande au maximum de gens ou un échantillon représentatif, est-ce que vous sauveriez un chat ou Rembrandt? Et puis, comme ça, on saura. Alors, on va faire ensuite une distribution selon l'origine sociale, l'âge, etc. On aura probablement différentes réponses. D'autres philosophes estiment que ce n'est pas la meilleure méthode. Au fond, ce qui est intéressant, quand on parle d'intuition morale, on ne parle pas d'une notion sociologique, mais au fond d'une notion qui est liée au bon jugement, au meilleur jugement. Alors, on sélectionne certaines personnes qui sont censées avoir une sensibilité morale plus que d'autres, d'avoir réfléchi sur ces questions, d'avoir un sens de ces réponses.
Est-ce que c'est une manière de faire fondée ou pas? Parce qu'après tout, celle qui consiste à considérer qu'il y a, au fond, des des porte-paroles plus autorisés que d'autres de ce que sont les intuitions morales d'une société. Après tout, c'est une vieille affaire. Aristote considérait que un certain nombre de personnes, et Sophoï, avaient un accès privilégié à ce qu'était le bien, tout simplement, et une appréhension plus directe, un accès garanti à ce qu'était le bien. Aujourd'hui, dans nos sociétés, peut-on dire que certaines personnes, du fait de leur formation, du fait de leur position, de leur exercice, de leur pratique professionnelle même, ou de leur environnement, sont plus que d'autres aptes à dire ce qu'il en est des intuitions morales? Au fond, quand on met en place des comités d'éthique, c'est avec une, c'est sur la base d'une hypothèse de ce type. Est-elle fondée ou pas, Ruvenogien?
Moi, je dirais que il est intéressant d'essayer de mettre à l'épreuve cette idée, car c'est une idée qui me semble bien enracinée, évidemment, dans nos pensées. Il me semble que les comités d'éthique ont été assez bien accueillis, l'idée qu'il y avait des jugements bien considérés et que certaines personnes avaient plus de sensibilité morale que d'autres, c'est une idée qui est assez répandue. Je pense que l'effort qui est fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la philosophie morale expérimentale, d'élargir un peu le cercle des personnes qui sont supposées être aptes à porter un jugement moral est un effort qui, à mon avis, est intéressant. Mais ce que je trouve passionnant, au fond, c'est la convergence entre ces jugements de cette élite morale et les réactions des personnes qui n'ont pas de formation spéciale en philosophie morale quand on les interroge de façon assez massive. Nous y reviendrons tout à l'heure dans les expériences de pensée. Souvent, les philosophes disent on pense qu'on aura tendance à dire que, et on peut avoir un mouvement de révolte empirique en se disant mais comment il le sait, où il va chercher ça, etc. Et finalement, quand on pose la question aux gens, on s'aperçoit que, quelle que soit leur origine sociale, leur pays, leur culture, leur formation philosophique, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est ça qui est intéressant.
Mais quel rôle joue le raisonnement éthique et la délibération là-dedans? Parce qu'au fond, le comité d'éthique ou la réunion des personnes éthiquement autorisées, quelle que soit la manière dont on veut les désigner, c'est une chose. Il y a souvent une très grande diversité d'opinions et d'évaluations morales. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'une une assemblée de personnes, disons bien intentionnées, qui recherchent ensemble une forme de vérité, se mettent à délibérer entre elles, on aboutit à des conclusions qui ont résisté à la force des objections, qui sont appuyées sur des argumentations solides, et qui sont assez semblables, au fond, à celles qu'on obtient dans tout groupe, au terme des discussions de tout groupe qui délibère ensemble.
La question de savoir s'il y a une sorte de sagesse collective, qu'elle soit le fait d'experts ou qu'elle soit le fait de personnes qui n'ont pas de...
C'est pas de la sagesse collective. La sagesse collective, c'est la sédimentation des opinions qui finit par donner une impression d'ensemble qui...
C'est pas ainsi que vous voyez
qu'on a des raisons de penser, on a des raisons de penser que cette convergence s'approche de la vérité. Donc là, c'est un véritable travail de transformation des opinions par la délibération, la réfutation et l'élaboration de meilleures raisons.
Alors, en ce qui concerne des sujets que je n'ai pas du tout abordés d'ailleurs, cette fois-ci, comme l'aide active à mourir, la gestation pour autrui, des questions de ce genre sur lesquelles le point de départ peut être aussi appuyé sur des convictions religieuses, sur des idées très très générales. Je pense qu'il y a ce travail d'élaboration, de formation, de compromis. Quand on sait aussi que le débat doit viser à convaincre dans une démocratie la plus large population, il y a, si vous voulez, à la fois un objectif qui est celui d'arriver à un compromis et puis les circonstances dans lesquelles les débats se font, qui est celle de la recherche de ce compromis. Mais dans les expériences qui m'intéressent, c'est pas du tout ce que nous cherchons. J'ai vraiment intentionnellement mis de côté toutes les questions complexes et je suis resté à un niveau qu'on peut appeler, disons, méta-éthique, c'est-à-dire sur comment se fait un jugement moral en général.
Alors revenons-y. L'expérience de pensée, par excellence, prend une intuition morale qu'elle met en difficulté sur une situation telle que celle que vous évoquez, quatre hommes, un chien dans un canot, un doit mourir, lequel? Mais elle procède par un phénomène de distanciation, d'estrangéisation, si on peut dire. C'est, autrement dit, une situation familière est vue de l'extérieur sous un voile d'étrangeté, en quelque sorte, qui a pour conséquence que ce qui était d'abord considéré comme tout à fait normal paraît soudain extrêmement étrange. On n'a plus quatre hommes et un chien, on a quatre criminels et un chien héros et sauveur, et potentiellement sauveur aussi d'autres êtres humains. Donc ça, c'est un artifice de présentation, au fond, assez classique. On change le contexte, on fait varier les paramètres, on fait varier les acteurs, on fait varier les époques, les lieux. Et ce qui était très familier, brusquement, devient assez étranger. Et on a du mal à s'y reconnaître. Mais d'une certaine façon, cette ressource qui est au cœur de la construction de l'expérience morale, telle que vous l'entendez, n'est-elle pas la ressource qui a été utilisée par la littérature satirique, pamphlétaire, depuis au fond assez longtemps? Quand Montesquieu écrit les lettres persanes ou les bijoux indiscrets, et Diderot les bijoux indiscrets, ne font-ils pas la même chose d'une certaine
Bien
façon?
Bien sûr. Les expériences de pensée peuvent être opposées à deux choses. Elles peuvent être opposées à des expériences qu'on peut appeler réelles. J'évoquais tout à l'heure le cas du canot de sauvetage, qui est un cas classique dont on a beaucoup discuté en philosophie morale. Il y en a un autre qui est voisin, mais qui est un cas réel, c'est celui du bébé fait, du petit enfant à qui on a greffé un cœur de babouin. Et il y a eu des réactions évidemment extrêmement violentes, surtout de la part des associations qui étaient contre la vivisection, qui se disaient qu'il était scandaleux de sacrifier un petit singe en bonne santé, intelligent, etc., pour un bébé dont les chances de survie étaient très très faibles. Donc là, on a une expérience sur laquelle on peut réfléchir aussi et qui n'a pas été composée de façon aussi artificielle que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis à côté de ces expériences, donc, qui sont toutes les deux finalement, qui ont une structure assez simple, celle de l'enfant à qui on greffe un cœur de babouin, puis celle du canot de sauvetage qu'on doit vider un peu, débarrasser d'un des occupants. On a en littérature aussi des situations hypothétiques qui sont envisagées par l'auteur, qui imagine des personnages hypothétiques dans une situation hypothétique, qui pose des problèmes moraux complexes. Mais la différence que j'ai essayé de souligner entre ces cas, qui ont chacun leur intérêt au fond pour la réflexion morale, qui ne donnent pas les mêmes possibilités au fond. Je crois que l'intérêt, comme vous l'avez souligné, de l'expérience de pensée, c'est qu'elle nous permet d'isoler des variables, de les faire jouer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous importe dans le jugement moral. Et le fait qu'il s'agisse d'histoires simples, schématiques, je dirais presque un peu bêtes au fond, ça nous donne, on n'a pas l'impression de porter atteinte à une œuvre d'art si on commence à changer telle ou telle chose. Si on modifiait les faits, on serait accusé d'être un falsificateur. Donc on a peu de liberté dans les histoires comme celle du bébé fait. Et en ce qui concerne les œuvres littéraires, leur beauté vient de leur complexité, du fait qu'elles ont été construites par leurs auteurs pour montrer l'imbrication des choses. Et elles nous laissent finalement, j'ai l'impression, moins de latitude pour modifier les éléments. Et finalement, est-ce que c'est si intéressant que ça de les modifier?
Mais justement, alors approfondissons cette idée ruvanogien. Ces artifices de présentation dont use la littérature satirique ou pamphlétaire, ou la littérature à des fins de dénonciation, c'était quand même le cas des lettres persanes, c'est la nécessité d'utiliser ce moyen de mise en situation d'étrangeté pour déjouer la censure, parce qu'on ne peut pas dire explicitement ce qu'on a à dire. On a parfois l'impression, quand on considère cet usage de plus en plus répandu des expériences de pensée, d'ailleurs vous avez cité dans votre ouvrage de nombreux livres publiés aux États-Unis et qui déploient cette possibilité, on a l'impression que ces expériences servent au fond à déjouer la pire des censures aujourd'hui, qui est une sorte de censure de bien-pensance, de censure de primat des intuitions morales que personne n'ose dénoncer, entre guillemets, et il n'y a pas d'autre recours que la mise en situation totalement contrefactuelle pour faire apparaître derrière ce prétendu consensus moral, eh bien, au fond, peut-être des préjugés ou des certitudes très superficielles.
En fait, ce qui m'a frappé dans les expériences de pensée au début, c'est la même chose que ce que vous évoquez. Je me suis dit, étant donné que les problèmes moraux que nous avons l'occasion de discuter, comme celui par exemple de l'euthanasie, sont complexes, mettent en jeu des sentiments extrêmement puissants, opposent des personnes qui ont des avis qui sont violemment partagés. Il vaut peut-être mieux se mettre dans une situation hypothétique, dans des expériences qui sont un peu irréelles, pour en tirer des conclusions que chacun voudra bien tirer sur des problèmes de ce genre. J'ai évoqué, nous le ferons peut-être tout à l'heure, le cas du violoniste qui est accroché au dos de quelqu'un pendant quelques mois. Et alors cette situation complètement loufoque est censée nous apprendre quelque chose de l'avortement. Bon, nous y reviendrons probablement, mais en fait, j'ai renoncé à cette façon de présenter celle que vous avez évoquée, c'est-à-dire déjouer une sorte de censure, parce que en pensant à Peter Singer, le philosophe utilitariste, ou même à Tom Regan, qui est celui qui a pensé à cette expérience du canot de sauvetage, ces genres d'expériences étaient beaucoup plus choquantes pour les personnes que ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire envisager, comme Singer l'a fait, un cas dans lequel il faudrait plutôt donner la préférence à des animaux qu'à un comateux, ça fait qu'il peut plus se présenter en Allemagne sans être hué, sans qu'il y ait des manifestations contre Donc les expériences de pensée elles-mêmes peuvent avoir une capacité de choquer parfois plus grande que la réalité.
Bien, alors commençons à entrer dans le détail de ces expériences. Mais d'abord une question. Lorsqu'un expérimentateur fait une expérience, c'est tout de même avec une idée assez précise de ce qu'il veut tester ou expérimenter. Le plus souvent, c'est pour vérifier une théorie, qu'un dispositif expérimental est mis en place. Quelle sorte d'idée ou de théorie est vérifiée ou falsifiée par l'expérience de pensée? Prenons un exemple que vous citez assez régulièrement. Un automobiliste passe la nuit, il est pressé, comme tout un chacun, et il voit un blessé sur le bord de la route. Ça, c'est une chose qui a été maintes fois étudiée dans des conditions d'approximation. Que fait-il ? Porter secours aux blessés, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire arrêter sa voiture, se mettre considérablement en retard. Disons que la plupart des gens le font tout de même, heureusement. Cela dit, ajoutons des éléments supplémentaires. La voiture est toute neuve et le blessé est tout sanguinolent. Et il a un aspect fort peu engageant. Donc mettre le blessé, coucher le blessé sur la banquette arrière, ça voudrait dire bon, il y a considérablement souillé la voiture. Et puis on peut aller encore plus loin. Le conducteur de la voiture a investi beaucoup d'argent dans l'achat de sièges en cuir blanc dont il est extrêmement fier et qui sont tout à fait incompatibles avec l'état d'un blessé. Bref, on peut multiplier les circonstances, les rendre de plus en plus contraignantes et puis aboutir au fond à la conclusion qu'on souhaite obtenir. C'est que quand c'est trop coûteux, les personnes ne le font pas, c'est ça ?
En ce qui concerne ce genre de cas, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes disposés à faire, quel genre d'effort nous sommes disposés à faire pour, respecter un premier mouvement, comme vous l'avez présenté, voilà comment les choses devraient être mises en forme pour qu'on puisse faire fonctionner toute cette machine à expérience de pensée. On devrait en effet partir de l'idée que la première intuition de la personne, ça sera « je dois aider quelqu'un qui est sur le bord de la route », etc. Mais il va y avoir toutes les différentes choses que vous avez évoquées. Et je pense que si vous présentez ce cas à des juges extérieurs, c'est-à-dire si vous n'êtes pas vous-même le conducteur de voiture, je crois que ça sera unanimement condamné. Et ce qui est intéressant dans ces expériences et dans tout ce que j'appelle la philosophie morale expérimentale, c'est qu'elle est divisée en deux parties très importantes, celle qui porte sur les jugements moraux, ce que nous allons faire quand on nous expose dans des petites vignettes, des petites histoires, et là on est bien au chaud, alors on va décider, oui, ben, c'est scandaleux ce que fait le chauffeur, et puis quand nous allons être nous-mêmes confrontés, donc ce sont des expériences sur les comportements humain. Et là, on a en effet de très mauvaises surprises, c'est-à-dire que la quantité de personnes qui est disposée à s'arrêter dans ce genre de circonstances sera probablement beaucoup plus faible que celle que les personnes qui ont jugé que c'était scandaleux de ne pas le faire. Alors là, c'est là où nous avons un nouveau problème qui est posé par ces expériences de philosophie morale expérimentale, c'est de bien garder à l'esprit la différence qu'il y a entre nos jugements, nos intuitions, la justification de ces intuitions, ce que nous allons faire en réalité, qui est tout autre chose en fait.
Mais c'est tout à fait intéressant, car au fond, la majorité des problèmes moraux tiennent dans ce décalage. Sur les jugements moraux, la plupart des personnes ne sont pas en désaccord. La plupart des gens, la très grande majorité des personnes, trouvent qu'il faut aider un blessé qui est en train d'agoniser sur le bord de la route. En revanche, lorsque on quitte le domaine normatif, c'est-à-dire le domaine de ce qu'il faut faire, pour passer au domaine descriptif, c'est-à-dire le domaine de ce que les personnes font, les choses sont infiniment plus compliquées. Et on constate en effet qu'il suffit d'une très petite gêne ou de la crainte d'une très petite gêne pour que le geste qui doit être fait d'un point de vue normatif ne soit pas fait. Donc, quelles conséquences ? Est-ce que que fait-on de cette observation, au fond, qui n'est pas nouvelle ? C'est une chose connue depuis fort longtemps. L'expérience morale permet de donner des éléments de mesure et d'appréciation plus juste sur le décalage immense qui existe entre les jugements et les actes. Mais que fait-on du constat de ce décalage ? Est-ce qu'il y a une sorte de recommandation sur ce que pourrait être un rôle actif de la morale pour essayer de réduire ce décalage, Ruvanogien ?
Je pense que là, nous arrivons au cœur de ce que j'ai voulu faire et puis ce qui est exprimé dans le titre, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale, car il y a en effet des facteurs tout à fait insignifiants et futiles qui peuvent nous bloquer dans la réalisation d'actes qu'on considérerait, si on était bien au chaud chez nous, comme des actes qu'il convient de faire. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des choses tout à fait insignifiantes et futiles qui nous rendent meilleur que ce qu'on pourrait croire. Donc, si vous voulez, je sais qu'il y a une grande tendance à s'appuyer sur de très nombreuses expériences qui montrent qu'on a une propension à nous transformer en monstres pour des raisons complètement futiles. Mais j'ai voulu insister aussi, sans être spécialement optimiste, sur l'inverse. C'est-à-dire que devenir un saint, c'est peut-être compliqué, mais devenir quelqu'un de correct dépend aussi de choses qui, au fond, sont complètement insignifiantes, comme une odeur de croissant chaud ou comme un téléphone qui vous rend la monnaie, etc. Et à ce propos, une des expériences les plus intéressantes sur le décalage que vous évoquiez tout à l'heure est celle qui avait été faite avec des séminaristes qui étudiaient la parabole du bon samaritain et qui était supposé aider et qui avait passé les tests de personnalité qui montraient à quel point ils étaient altruistes et généreux. Et on les convoquait pour faire un examen, pour établir un petit peu les raisons de leur vocation, etc. Et les expérimentateurs les avaient mis dans un immeuble et les avaient séparés en trois groupes différents. Et au milieu du questionnaire, on leur avait dit que la suite du questionnaire aurait lieu dans un autre immeuble qui était à une distance d'une centaine de mètres de celui où avait lieu la première partie du questionnaire. Entre les deux bâtiments, un complice de l'expérimentateur s'effondrait comme s'il avait une crise cardiaque, râlait, et donc semblait vraiment être quelqu'un qui devait être aidé, assisté, sauvé. Alors, ces séminaristes, on leur disait, un premier groupe, vous avez quelques minutes pour aller à l'autre bâtiment. Les seconds leur disaient, vous avez 10 minutes pour aller à l'autre groupe de bâtiment. Et au troisième, on leur disait, vous avez tout le temps que vous voulez. Et évidemment, les réactions de ces séminaristes qui venaient d'étudier donc cette parabole du bon samaritain, qui étaient tous d'accord avec le contenu, qui le comprenaient, ont réagi de façon vraiment étonnante. Les premiers étaient prêts à piétiner, enfin ceux qui étaient pressés étaient prêts à piétiner la pauvre victime complice de l'expérimentateur. Les seconds étaient, ça se partage, je donne les chiffres, à peu près moitié-moitié étaient disposés à aider, les autres passaient leur chemin sans s'arrêter. Et enfin les derniers, ceux qui avaient un peu plus le temps, leur vaste majorité ont aidé la victime, enfin la victime présumée. Et alors, évidemment, on peut tirer deux conclusions opposées. On peut se dire qu'il suffit d'être pressé pour être quelqu'un d'horrible, un monstre, mais on peut aussi tirer la conclusion inverse. Il suffit d'avoir un peu le temps pour être bien, pour être une personne correcte. Donc, si vous voulez, je pense que ces espèces de discours sur le mal, la banalité du mal, la facilité avec laquelle nous succombons au pire, il faut le contrebalancer par toutes sortes d'autres expériences qui montrent la facilité avec laquelle nous pouvons être bons.
Vous écoutez France Culture, bien évidemment, il n'y a que là qu'on puisse parler de la philosophie morale, ses expériences, sa théorie et sa pratique avec Ruvanogien et ses questions d'éthique. un enfant qui se noie. Pouvez-vous nous raconter cette expérience, Ruvianogia?
J'espère qu'au fur et à mesure de l'émission, on verra comment se construisent ces intuitions. Donc, la situation qui est envisagée est celle d'un enfant qui est en train de se... On le voit s'agiter, il est en train de s'agiter dans un étang, il semble être en très mauvaise posture, et vous arrivez, vous le voyez dans cette situation, il n'y a personne autour, pas de nounou pour le garder, pas de parents, etc. Et puis vous vous dites, bon, l'eau n'est pas profonde, c'est pas un grand problème au fond de le sauver, il suffirait de peu de choses pour que je le sauve. Et si vous ne le faites pas dans ces conditions, évidemment, là, ces fameuses intuitions dont nous parlons depuis le début diront, normalement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand vous allez évoquer ce cas devant quelqu'un, si quelqu'un se trouve dans une situation où il peut facilement sauver la vie d'un enfant, s'il ne le fait pas, on va se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas quoi, chez lui, c'est un monstre, ou il n'a pas vu la situation, on sera obligé de se dire que quelque chose ne marche pas. Donc, ce qu'on isole en présentant ce genre de cas, c'est l'intuition que quand il est possible de faire quelque chose d'aussi nécessaire que sauver la vie d'un enfant et qu'on ne le fait pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on peut ajouter qu'il y a quelque chose de monstrueux dans le fait de ne pas accomplir cette action.
Bon, alors là, on semble tenir une intuition morale indubitable. Hein, oui. Un enfant qui se noie... Même s'il n'y a pas de témoin, ici on ne sera jamais considéré comme coupable de ne pas l'avoir sauvé, tout individu prénormalement constitué, s'il ne met pas sa vie en danger, se précipite pour le sauver, très spontanément.
L'idée c'est qu'on peut ajouter, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dire qu'il hésite pour telle ou telle raison, mais supposons qu'il hésite parce qu'il vient de s'acheter aussi une paire de chaussures neuves, ou un costume, ou qu'il risque d'être en retard au travail, ou qu'il a un avion à prendre, etc. On peut faire différentes variations, mais restons-en simplement à cette intuition. L'argument qui est utilisé dans la discussion morale, c'est Peter Singer dans « Sauver une vie », un livre qui vient d'être publié
Peter
récemment.
Singer, philosophe australien.
Et donc, il dira, bon, alors, vous êtes tous d'accord que c'est pas bien de faire ça, c'est monstrueux. Mais ne pas envoyer un chèque de 20 euros à une association de lutte contre la famine qui vous permettra aussi de sauver un enfant, vous ne voyez pas le rapport, vous ne voyez pas que c'est aussi monstrueux. Et donc, ce qu'il va essayer de dire, c'est que ce sont des cas similaires qu'il faut traiter de façon similaire.
Donc l'argument est de dire, si vous trouvez nécessaire, d'un point de vue moral, de sauver cet enfant qui se noie, vous devez trouver nécessaire aussi de consacrer l'essentiel de votre argent.
Pas l'essentiel, mais
une part importante de votre argent à aider les enfants des pays en voie de développement, dont certains sont véritablement menacés par la famine. C'est ça l'argument.
C'est la structure, si vous voulez, cette combinaison d'une part de cette intuition. Hein, on vous a présenté ça, vous étiez bien d'accord. On vous présente le deuxième cas et vous commencez à hésiter parce que vous allez vous dire mais les cas ne sont pas similaires, c'est pas la même
Alors,
chose.
Alors, le sont-ils ou ne le sont-ils pas? Parce que l'argument de Peter Singer n'est convaincant que si on admet la similarité
Exactement.
Des deux cas. Alors, est-elle avérée ou pas?
Alors, dans le cadre, moi, je ne vais pas me prononcer sur cette question. Ce qui m'intéresse pour ces deux comprendre la structure du jugement moral et de voir qu'elle est composée de ces deux éléments, ce que j'appelle la cuisine morale. C'est d'une part ces intuitions toutes simples, comme il est monstrueux de ne pas aider un enfant qui est en train de se noyer sous vos yeux, et puis d'autre part de principes, de règles générales, de raisonnement moral, comme celle qui dit « mais traiter les cas similaires de façon similaire ». Une fois qu'on a à la fois l'intuition et le principe de traiter les cas similaires de façon similaire, on peut contester les deux au fond.
Mais oui, on peut trouver que le principe de similarité est très bon.
Mais qui n'est pas applicable dans ce cas-là.
Mais que ces deux cas n'ont rien de similaire. Et en effet, il est difficile de leur imaginer des véritables similarités. D'abord parce que il n'y a pas de lien causal direct entre l'enfant à sauver lorsque l'enfant se noie et l'enfant à sauver lorsqu'il est un enfant inconnu parmi des milliers ou des centaines de milliers d'autres. Et puis par ailleurs, il n'y a aucune certitude sur le fait que l'action qu'on accomplira, signer un chèque, sauvera effectivement cet enfant. Tandis que lorsqu'on précipite pour sauver un enfant qui se noie, on sait qu'on le fait.
Oui, il y a aussi la question, comme le cas a été présenté, dans l'enfant qu'on doit sauver, on est seul à pouvoir le faire, tandis qu'on n'est pas le seul à pouvoir envoyer des chèques. On peut dire aussi qu'on n'aurait peut-être pas passé la soirée avec quelqu'un qui nous raconte à table qu'il a vu un enfant se noyer et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il fallait qu'il aille à un rendez-vous urgent, mais on hésitera moins à passer la soirée avec quelqu'un qui nous dit qu'il a beaucoup hésité, puis finalement il n'a pas envie d'envoyer un chèque à une association de lutte contre la famine. Donc on trouvera toutes sortes de différences entre ces deux cas, c'est certain. Mais ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est de montrer à quel point une partie de notre réflexion morale est basée sur ces deux choses très simples, au fond. Nous avons des intuitions, et puis nous avons des règles, et comment elles se combinent. Et je pense que c'est une façon de montrer le mécanisme du jugement moral, du raisonnement moral, et qui nous permet aussi d'en voir toutes les difficultés.
Autre exemple, non moins fameux. Le conducteur d'un tramway s'aperçoit que ses freins ont lâché alors qu'ils fonçaient toute allure dans un vallon encaissé. Sur la voie, devant lui, à une certaine distance, se trouvent 5 traminots qui font des travaux de réparation. À vous,
alors, le tramway fonce sur les 5 traminots, et puis alors une personne qui se trouve à proximité de la voie remarque qu'il y a un aiguillage qui lui permettrait, s'il l'actionnait, d'envoyer le tramway sur une voie d'évitement et ainsi de sauver la vie de ces 5 traminots. Il lève les yeux et s'aperçoit que malheureusement il y a un autre traminot sur la voie d'évitement, donc le choix est entre tuer, enfin laisser mourir 5 traminots ou là aussi enfin tuer ou laisser mourir un traminot. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est permis moralement d'actionner l'aiguillage? Et
là, alors aussi, la question morale, c'est est-ce qu'il est permis d'un côté de laisser l'accident se produire avec 5 traminots morts, ou bien est-il permis de causer l'accident avec un traminot mort? Parce que là, dans le deuxième cas, il y a vraiment une intervention de la délibération humaine et de la volonté.
Mais au fond, là aussi, vous voyez ces expériences de pensée, on peut faire beaucoup de choses. Et là vous prenez cette expérience de façon isolée, elle n'est pas complète. En réalité, pour la compléter, on l'oppose à une autre expérience qui est à peu près du même genre, mais qui montre à quel point nos intuitions morales sont fragiles. Et voilà cette expérience. Vous vous trouvez sur une passerelle au-dessus de la voie ferrée, sur laquelle le même genre de tramway dont le conducteur a perdu connaissance fonce à toute allure sur 5 traminots qui sont en train de travailler sur la voie. Le vallon est trop encaissé, les traminots ne peuvent pas s'enfuir, ils vont certainement être écrasés, ils vont tous mourir. Et vous apercevez juste à côté de vous, sur la passerelle, un gros bonhomme. Vous avez suffisamment de connaissances en physique pour vous dire que si vous poussez cette personne qui est là sur la balustrade, juste une toute petite poussette suffira à le faire tomber sur la voie et à arrêter le tramway et à sauver aussi les 5 traminots. Donc la structure est à peu près la même. Vous avez d'un côté une intervention active, hein. Donc vous poussez quelqu'un, vous le faites tomber sur la voie, vous arrêtez le tramway de cette façon, vous sauvez les 5 traminots. Et dans le premier cas, vous aviez aussi un aiguillage, vous l'actionnez, donc comme vous l'avez dit, vous avez délibéré, vous êtes intervenu de façon causale et vous avez causé au fond la mort d'un traminot au lieu de laisser mourir les 5. Et ce qui est intéressant, ce sont donc les réactions intuitives. Ouais. Les personnes en général, bon, les philosophes ont commencé par dire, alors qu'il est permis moralement d'actionner l'aiguillage, il est tout à fait interdit de pousser le gros bonhomme sur la voie pour arrêter le tram. Pourquoi ? Et une littérature énorme s'est développée, une traméologie, qui a d'ailleurs été très très envahissante dans la philosophie morale, qui continue de l'être aujourd'hui avec ses développements expérimentaux. C'est la philosophe Judith Jarvis Thompson qui a eu l'idée de mettre ensemble ces deux cas, et elle-même disait, mon intuition c'est que tout le monde dira, la plupart des gens accepteront d'actionner l'aiguillage, et pratiquement personne n'acceptera de pousser le bonhomme.
Dans un cas, on détourne une menace,
oui.
De manière, pour ainsi dire, impersonnelle. On pousse la machine, on pousse le levier, on détourne la machine, on pousse le levier. Dans l'autre cas, on commet un meurtre, c'est-à-dire on tue un homme pour en sauver 5. Là, c'est tout à fait délibéré.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la discussion a porté entre l'interprétation, donc ce jugement, et on doit considérer que c'est une sorte de donnée. La donnée, c'est que les gens en général ou les philosophes ont comme intuition que le premier est permis et le second ne l'est pas. Vous donnez une des interprétations, c'est celle de Thompson. Elle dit que la raison pour laquelle nous acceptons d'actionner l'aiguillage et que nous n'acceptons pas de pousser le gros bonhomme sur la voie, c'est que dans le premier cas, nous avons simplement une menace qui était existante et qui est détournée. C'est comme une fatalité déviée. Tandis que dans le deuxième cas, nous avons ajouté une menace sur cette personne, en l'occurrence.
Nous avons commis un acte qui a directement causé sa mort.
Oui, dans le cas du Tramino aussi, on a causé sa mort en actionnant l'aiguillage. Peut-être d'une autre façon, mais la question se pose de savoir pourquoi nous faisons une telle différence. Alors, comme c'est une des expériences qui a été le plus étudiée, examinée, des différentes interprétations ont été données de cette intuition. L'intuition, donc, je rappelle, c'est l'idée qu'il est permis moralement d'actionner un aiguillage tuant un Tramino pour en sauver cinq, mais n'est pas permis moralement de pousser quelqu'un pour obtenir exactement le même résultat. Évidemment, ce qu'on appelle les conséquentialistes, qui considèrent que la valeur d'un acte se mesure à ses conséquences, considèrent que nous sommes irrationnels, parce qu'au fond, dans les deux cas, nous avons sacrifié une personne pour en sauver cinq. Il est absurde de dire qu'il y a une différence morale profonde entre les deux cas, à part peut-être des choses qui relèvent de la psychologie personnelle, qu'il est beaucoup plus pénible de pousser quelqu'un. Bon, il faut aussi avoir les moyens de le faire, alors que actionner l'aiguillage pose moins de problèmes psychologiques. Donc, ils ont considéré que la différence entre les deux n'était pas une différence d'ordre moral, les conséquentialistes, mais une différence purement psychologique qui relevait de facteurs irrationnels. Alors, évidemment, comme c'est à la mode maintenant, ils sont empressés de brancher des électrodes sur le cerveau de ceux qui répondaient à ce genre de questions. Et ils se sont aperçus que la partie dite émotionnelle du cerveau s'agitait lorsqu'il s'agissait de pousser le bonhomme, tandis que lorsqu'on présentait le cas de l'aiguillage, c'était plutôt la soi-disant partie rationnelle du cerveau qui était animée. Alors, bon, moi, j'ai aucune connaissance spéciale en matière de localisation cérébrale, c'est pas très très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est comment les conséquentialistes ont essayé de tirer la conclusion de tout cela, qu'au fond, la différence qu'on avait tendance à faire intuitivement était irrationnelle. Donc, ils donnent une explication aussi. Ils disent, il est tout à fait, on peut prédire que les gens vont réagir de cette façon-là. Ils vont réagir ainsi parce qu'ils sont irrationnels.
Mais ne peut-on pas tout de même insister sur la différence d'action entre les deux? Parce que dans un cas, on détourne une menace sur les cinq hommes. Et le dommage collatéral, c'est qu'il y en a un sur la voie où la menace se trouve détournée. Tandis que dans l'autre cas, il y a véritablement un acte, la mort de cet homme, et le moyen pour que les cinq ne soient pas tués, tandis que dans l'autre cas, le moyen, c'est changer de voie. Il se trouve que sur cette voie vers laquelle on s'oriente, il y a un homme qui est là. Ça n'a pas tout à fait la même teneur morale.
Ce qui est très intéressant, au fond, c'est que les psychologues qui se sont... Alors, je dois vous dire que cette expérience, elle a été discutée en philosophie pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que des psychologues se décident à faire une enquête massive sur Internet, où ils ont présenté ces cas à des milliers de personnes. En fait, 2600 ont été sélectionnés en tout et ont apporté des réponses venant de pays divers, d'origines sociales diverses, de formations diverses. Et les résultats étaient à peu près le même. Enfin, statistiquement, 89% des personnes trouvaient qu'il était permis, ont jugé qu'il était permis moralement d'actionner l'aiguillage, et 11% seulement, il y avait quand même 11% qui pensaient que ça ne posait pas de problème de pousser un gros bonhomme pour la voie pour obtenir le même effet.
Bon, mais que fait-on de ces pourcentages? Alors, quoi sont-ils significatifs ou révélateurs? Quelles conclusions tirer?
Alors, ce qui était intéressant, c'est que l'explication qui a été donnée par les psychologues, c'est que nous avions d'une part donc cette possibilité que nous soyons incohérents. C'est que normalement, si on considère qu'il est acceptable moralement de tuer une personne pour en sauver cinq, ça devrait valoir dans les deux cas. Mais d'autres ont dit, en invoquant des arguments du genre de ceux que vous avez évoqués, qu'il y a une grande différence entre se servir de quelqu'un comme d'un simple moyen ou de causer un acte qui, au fond, provoque la mort de quelqu'un sans que vous soyez servi de cette personne. Alors, ils ont repris un peu l'argument kantien pour interpréter différemment les deux cas.
Dans un cas, ce serait « j'ai sauvé cinq hommes, mais par malheur, ce faisant, un homme est mort ». Dans l'autre cas, ce serait « j'ai sauvé cinq hommes en tuant un homme pour que ces cinq ne soient pas atteints ». Vous évoquez deux principes qui sont très souvent mentionnés et mis en avant, surtout lorsqu'on se trouve en situation de devoir justifier ses intuitions morales. La première raison, c'est « et si tout le monde en faisait autant ?» Ce que vous faites là, c'est pas bien du tout. Et la preuve, c'est que si tout le monde en faisait autant, ce serait vraiment pas possible. Et puis, deuxième raison aussi très communément évoquée, puis d'ailleurs qui toutes deux servent à éduquer les enfants et à les éduquer à la morale, c'est le fameux « aimeriez-vous qu'on vous fasse la même chose ?» Bon, qui a certes une origine tout à fait fameuse, Mais prenons ce dernier cas, si vous voulez bien. Aimeriez-vous qu'on vous fasse la même chose ? Non, bien sûr, je n'aimerais pas du tout qu'on me fasse la même chose lorsqu'il s'agit d'un mauvais traitement. Mais est-ce que la plupart des gens considèrent que le fait qu'ils n'aimeraient pas qu'on le leur fasse leur donne une raison forte à eux pour ne pas le faire ?
Il n'est pas évident qu'on établisse cette symétrie entre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et ce qu'on est disposé, nous, à faire ou ne pas faire aux
autres.
Par
exemple, prenez le cas qui sert en général à illustrer ce principe, l'affaire du violoniste branché sur le dos d'un individu.
Oui, il faut peut-être rappeler un peu cette histoire. Oui, c'est donc vous vous retrouvez un matin dans votre lit avec un violoniste qui est branché dans votre dos. Et vous demandez ce qui s'est passé. En fait, bon, c'est une société de musiciens qui a appris que vous étiez la seule personne qui avait un sang compatible avec ce violoniste incroyablement doué qui risque de mourir si on ne lui fait pas une transfusion permanente pendant 9 mois. Et donc on vous dit, écoutez, vous pouvez le débrancher, il va mourir, ou vous pouvez le conserver. Finalement, 9 mois, ce n'est pas grand-chose, etc. Et ça sert en fait à provoquer une discussion autour de l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce qu'elle est légitime dans ce genre de cas où on considère que le fœtus est une sorte d'intrus que vous ne souhaitiez pas. Et voilà, ça c'est le contexte général. Et se demander si nous, on aimerait qu'on nous fasse ça, qu'on nous branche un violoniste dans le dos, certainement pas. Est-ce que ça serait une raison pour nous de ne pas le faire aux autres ? Normalement, ça devrait être aussi une raison de ne pas le faire aux autres, bien sûr. Dans ce qui m'intéresse...
Faut-il considérer que les autres, c'est comme soi, et que ce qui est important pour nous l'est aussi comme les autres. Mais une fois qu'on a considéré ça, d'une certaine façon, on a franchi la plupart des étapes de l'éducation morale. Non ?
C'est-à-dire qu'on a aussi tous ces problèmes de traitement, de traiter les cas similaires de façon similaire, de savoir aussi s'il y a une symétrie entre ce que nous souhaitons faire aux autres et ce que nous voudrions que les autres fassent. Toutes ces questions, bon, j'essaye de les aborder, mais dans l'esprit de montrer la difficulté, celle que vous venez d'évoquer, elle ne nous vient pas à l'esprit tout de suite, mais je pense qu'elle est importante de se dire qu'après tout, on ne veut pas nécessairement que les autres nous traitent comme nous souhaitons les traiter. Et je pense que c'est une chose qui est importante à souligner.
Alors, la littérature est un vivier ou un trésor d'exemples de ce type. Et une suggestion que vous faites est d'ailleurs tout à fait intéressante. Nous nous interrogeons sur la tromperie d'Emma Bovary ou d'Anna Karénine qui abandonnent mari et enfant et qui s'en vont avec leur amant. Mais certains considéreront qu'en faisant cela, elles accomplissent ce qu'elles doivent, en quelque sorte, à leur propre personnalité. D'autres porteront un jugement moral très négatif sur ce type d'action. Vous nous proposez d'introduire des paramètres et de faire varier les circonstances. Qu'en serait-il de nos jugements moraux, par exemple, si Madame Bovary était un transsexuel ou Anna Karénine, une femme de ménage ? Alors, c'est tout à fait intéressant. Et de fait, dans ces deux circonstances, on se demande si ceux qui portent si aisément des jugements moraux de condamnation le feraient avec une telle facilité. Mais tout de même, ne peut-on pas se demander que lorsqu'on pousse aussi loin, en quelque sorte, l'art de la contrefactuelle, on risque de passer à côté du problème moral ? Parce que pour que une mise en contexte d'étrangeté, une distanciation, une variation de paramètres soit intéressante, il faut qu'elle porte sur ce qui est le trait moralement pertinent, en quelque sorte. Si elle porte sur des circonstances relativement périphériques, l'expérience morale telle que vous l'entendez ne nous enseigne plus grand-chose.
En ce qui concerne les exemples que vous avez évoqués, c'était plutôt une plaisanterie. Je pensais que dans le cas de Madame Bovary ou Anna Karénine, non seulement ces deux facteurs ne sont pas pertinents moralement, mais ce qui n'est pas pertinent du point de vue de l'intérêt moral de ces ouvrages, c'est de faire des variations, même si elles étaient plus pertinentes moralement. Je ne pense pas que c'est ça la grande différence entre la littérature, la fonction qu'a la littérature, c'est de nous montrer la complexité des situations morales dans des situations hypothétiques, sans nous donner l'envie de faire ces variations. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était ces expériences de pensée qui ont l'air un peu simpliste, mais dont tout l'intérêt, c'est de pouvoir nous permettre de varier, de comprendre quels sont ce que vous avez appelé les facteurs moraux pertinents.
Au fond, les expériences de pensée ou de philosophie morale ne nous enseignent-elles pas que souvent, lorsqu'on pousse trop loin lorsqu'on porte aux limites certaines caractéristiques des circonstances de nos jugements moraux, eh bien, les principes sur lesquels ces jugements se fondent ne tiennent plus. Souvent, nous devons conclure ce genre de choses. Mais au fond, qu'est-ce que cela prouve ? Est-ce que ça ne prouve pas tout simplement que nos principes moraux sont, comme disait Aristote, valables la plupart du temps, mais peut-être pas absolument partout ? Le fameux os etiptopolu, c'est-à-dire ce qu'il faut dans la très grande majorité des circonstances, mais il est vrai, pas dans les circonstances extrêmes auxquelles nous sommes confrontés, heureusement extrêmement rarement dans une vie humaine. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une assurance suffisante de savoir que ces principes moraux ne valent que dans la très grande majorité des cas, mais pas dans tous ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la seule vérité qui puisse s'attacher aux principes moraux, aux analogiens ?
Ce qui m'a intéressé peut-être un peu plus, c'était de voir comment tout ce corps d'expériences qui portaient sur les comportements, qui portaient sur les jugements, ce que nous apprend la littérature aussi, ou ce que nous apprennent des faits divers, comment nous utilisons tout ça pour essayer d'approfondir, de juger ou d'évaluer les grandes théories morales. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces grandes théories morales, qu'elles soient aristotéliciennes, qu'elles soient kantiennes, qu'elles soient utilitaristes, en réalité, elles ne passent pas aisément l'épreuve de tout ce travail.
Mais au fond, c'est une bonne chose, ça nous apprend à être moins sûrs de nous et plus inquiets. Merci, Ruffin Ogien, pour cette discussion. Merci à François Conna qui l'a réalisé. Merci à Jean-Michel Coqui qui était à la technique. Merci à Marie-Claire Matout. La semaine prochaine, nous parlerons de l'amitié. C'est notre émission d'entre les fêtes, en quelque sorte, avec Anne-Vincent Buffaut et Claude Habib. C'est une rediffusion d'une émission qui avait été programmée l'année dernière. Demain, vous retrouverez Les Racines du Ciel avec Frédéric Lenoir. Et dès lundi prochain, c'est de nouveau question d'éthique. Très bonne fête à tous, très bon début d'année et à lundi prochain.